RTVFM présente Envie d'entreprendre, votre rendez-vous avec l'économie locale animée par Marie-Cécile Drécourt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Envie d'entreprendre, l'émission sur RTVFM qui permet de rencontrer les femmes et les hommes chefs d'entreprise du territoire pour qu'ils nous parlent de leur parcours et donnent envie aux jeunes et aux moins jeunes d'entreprendre. Aujourd'hui, je reçois Olivia Mailleux, rédactrice web et formatrice, connue aussi sous le nom de la fille de l'encre. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Alors, bien évidemment, on va échanger autour de votre métier et de votre parcours d'entrepreneuse, mais nous allons également aborder la question du choix du statut, puisque vous faites partie d'une coopérative d'entrepreneurs. Alors, avant d'aller dans ces détails, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier ?
Oui, donc je suis consultante en communication digitale. J'ai plusieurs casquettes sur mon activité et comme vous l'avez dit, effectivement, j'ai une grosse partie de formation. J'accompagne les professionnels et les commerçants notamment à être un peu plus visibles sur Internet et à utiliser les outils et les réseaux sociaux à bon escient pour être efficaces dans leur visibilité. Et j'ai également une partie de rédaction web et juridique puisque j'ai été juriste d'entreprise dans une autre vie. Donc là, j'écris pour... Je remplis des sites internet, en fait, j'écris des articles de blog.
De manière qualitative.
Alors, de manière qualitative, à la fois pour que ça puisse faire plaisir à Google, pour que les sites internet soient bien référencés et apparaissent en première page, et à la fois pour faire plaisir aux lecteurs qui viennent chercher des informations sur ces sites-là.
Pas toujours évident sur des sujets juridiques quand vous travaillez sur ces sujets-là ?
C'est pas toujours évident de trouver l'équilibre effectivement entre la bonne visibilité et la vulgarisation en fait. Il faut à la fois faire de la vulgarisation mais ne pas s'éloigner du technique non plus. Donc voilà, je m'y emploie.
C'est un métier. Et alors voilà, ce que je disais en début d'émission, faites partie d'une coopérative d'entreprise, qu'est-ce que c'est ?
Oui. C'est une structure en fait qui va permettre aux entrepreneurs d'être salariés, tout simplement d'avoir un statut salarié.
Tout en restant indépendant, en fait.
Tout à fait. On reste indépendant sur la façon dont on exerce notre métier. Par contre, effectivement, on dépend de la structure au niveau administratif, juridique, comptable également. Mais c'est une vraie sécurité qui permet d'être salarié et qui offre bien d'autres avantages également. On pourrait associer ça parfois un peu à du portage salarial.
Ouais.
Dans le sens où effectivement je n'ai plus de numéro SIRET propre, j'ai été auto-entrepreneur pendant quelques années et donc j'ai renoncé à mon SIRET propre, j'ai le SIRET de la SCOP et donc j'ai le même SIRET que tous mes camarades qui font partie de cette coopérative d'entrepreneurs, mais effectivement on s'éloigne du portage salarial dans ce sens où c'est une coopérative, donc on participe à l'essor de la structure, au fonctionnement de la structure, à la définition de la stratégie marketing, de communication, etc., financière aussi. Et puis, de nombreux services nous sont proposés par cette coopérative, en fait. Ce que les entreprises de portage salarial ne font pas.
D'accord. Donc, comment ça se passe le jour où vous avez une mission ? C'est quand même à vous d'aller chercher... vos missions,
alors,
votre travail.
La coopérative ne fait rien pour nous dans ce sens-là, en fait. Alors après, elle offre effectivement des possibilités de formation. J'ai été formée gratuitement pendant 5 jours aux techniques de négociation et de prospection. Donc la coopérative, par son réseau, offre des formations, accompagne les coopérateurs, etc. Mais par contre, ne va absolument pas chercher les clients pour nous.
Et après, donc, une fois que vous avez trouvé la mission, c'est une facturation pour le client, ça se passe comment ?
Tout à fait. Je facture, mais je facture avec le numéro SIRET de la coopérative, en fait, et avec son outil.
Donc le client paye à la coopérative ?
Tout à fait.
Et alors après, vous, comment vous êtes rémunéré ?
La coopérative me reverse l'argent en prenant une commission.
D'accord. Ah, donc c'est un salaire ?
Tout à fait.
Ça veut dire que derrière, vous avez des charges salariales ?
J'ai des charges salariales.
Accès au chômage ?
Tout à fait.
D'accord.
Aux arrêts maladie, dans le même cadre qu'un salarié tout à fait traditionnel.
Donc ça veut dire que dans votre tarif aux entreprises, il faut que vous intégriez toutes ces charges.
Ça fait une grosse différence quand on passe effectivement d'auto-entrepreneur à indépendant dans une coopérative. Effectivement, on passe de 25% de charges à presque un peu plus de 50%. Mais effectivement, voilà, il y a tous les avantages derrière et cette sécurité qui, moi, me correspondait. Ça ne correspond pas à tout le monde. Ça ne correspond pas à tout le monde non plus dans un parcours professionnel, puisque la coopérative... impose plusieurs étapes en fait pour faire partie de cette coopérative. Il y a plusieurs étapes particulières qui sont des étapes légales. Hein. C'est pas la coopérative qui décide effectivement des étapes qu'elle va imposer aux futurs coopérateurs ou aux coopérateurs. C'est la loi hein, qui donne effectivement des étapes d'introduction, avec plusieurs contrats. On pourra en parler. Donc ça ne correspond pas à tout le monde et ça ne correspond pas à tout le monde selon son parcours professionnel, où on en est dans son parcours professionnel.
Et justement, alors en parlant de parcours professionnel, vous avez expliqué que vous étiez avant auto-entrepreneur, peut-être que vous avez été salarié également. Oui. Pourquoi avoir décidé de changer de statut pour intégrer cette coopérative ?
Alors, moi, j'ai un parcours, donc j'ai une reconversion professionnelle à mon actif. J'étais juriste d'entreprise pendant près de 15 ans sur des contrats traditionnels de CDI et de CDD. Et petit à petit, j'ai fait ma reconversion professionnelle jusqu'à rentrer à la métropole de Montpellier, où j'étais sur des CDD, sur beaucoup de CDD très, très réguliers sur plusieurs années. J'ai été à temps plein, à mi-temps, à trois quarts temps.
Voilà. C'est tous testés.
Oui, je crois que j'ai un peu testé tous les formats de CDI, de CDD à la métropole de Montpellier, mais avec beaucoup de bonheur. Hein. Et quand j'ai décidé de me mettre à mon compte à 100%, alors pendant que j'étais effectivement à la métropole de Montpellier, j'avais mon statut d'auto-entrepreneur déjà, donc qui complétait mes revenus et qui me permettait vraiment de commencer de façon importante ma reconversion professionnelle. Et quand la métropole de Montpellier, quand il a fallu se séparer de la métropole de Montpellier, je suis arrivée donc à 100% sur mon activité de communication digitale, auto-entrepreneur. Je commençais à avoir 40 ans, l'âge aidant, je me suis dit, ça ne va pas être terrible si, voilà, j'ai tout de suite pensé en fait à la maladie. Tout de suite, je me suis dit, si j'ai une maladie longue, ça ne va pas le faire si je suis auto-entrepreneur. Créalide, c'est le nom de la structure de la SCOP dans laquelle je fais partie, c'est une grosse coopérative d'entrepreneurs à Montpellier. Donc moi, j'habitais à Montpellier à ce moment-là, qui est très connue hein, en termes de visibilité. C'est l'une des plus anciennes SCOP d'entrepreneurs de France.
D'accord.
Donc c'est une très, très grosse structure. Donc elle a, voilà, pignon sur rue à Montpellier. Donc j'ai été, assister à une réunion d'information qui est obligatoire hein, dans le parcours des entrepreneurs. Cette réunion est absolument obligatoire. Et j'ai trouvé que c'était une bonne formule pour allier effectivement l'indépendance et la sécurité.
Et donc, plutôt ravie. Ça fait combien d'années que vous êtes...
Ça va faire 4 ans et je suis maintenant associée, parce que voilà, il y a des étapes.
Ça va évoluer dans le...
Oui, il y a des étapes obligatoires. Au bout d'un moment, on est obligé de passer associée dans une coopérative d'entrepreneurs.
Et ça change quoi par rapport à...
Ça change le fait qu'on est, on est beaucoup plus acteur en fait, de la stratégie et de la définition des actions de la coopérative, en fait.
Et vous travaillez aussi des fois en collaboration avec les autres membres ?
Oui, tout à fait.
Alors, je ne sais pas, on appelle ça des membres, des adhérents.
Alors, des co-entrepreneurs, en fait. Okay. Et effectivement, le travail entre co-entrepreneurs est vraiment valorisé. Et là, on est sur une coopérative de 250 membres. Donc, c'est vraiment une grosse structure sur laquelle, effectivement, on peut tous avoir des intérêts communs. Et les commissions sont moins élevées quand on travaille entre co-entrepreneurs, en fait.
D'accord.
L'idée, c'est vraiment de créer un réseau aussi bien à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a sur Créaline, en fait, il y a des pôles, un pôle bâtiment, un pôle formation, un pôle agence de communication, etc. Et que chaque pôle travaille pour faire connaître ses actions, pour faire connaître les membres, pour que les membres puissent travailler en synergie. Se faire travailler les uns les autres, etc.
Et c'est vrai que c'est un statut qui est en final pas très connu, le portage est un peu plus connu.
Tout à fait.
Mais, et alors, vous avez déménagé dans le Vaucluse, vous êtes dans le Vaucluse depuis un petit moment. Vous n'avez pas eu envie de changer de coopérative pour pouvoir vous rapprocher d'une coopérative plus proche ?
Alors, Créalide accepte effectivement, quand les coopérateurs sont arrivés à Montpellier, accepte généralement que les coopérateurs... déménage et reste en son sein. Cette coopérative me convient très bien, en fait. Alors après, voilà, le hic, c'est que je ne bénéficie pas autant du réseau.
Bien sûr.
Puisqu'il y a la distance. Donc les soirées, bon, après, le Covid a mis fin un petit peu à tout ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des soirées organisées, il y a des apéros, il y a des rencontres, il y a des formations sur place. Alors maintenant, tout est doublé par du distanciel.
Donc ça vous permet de continuer.
Ça me permet de continuer, mais c'est vrai que voilà, je me prive un petit peu de cette proximité-là, mais cette structure, c'est vraiment une structure sérieuse dans laquelle je me retrouve et j'avais pas envie de la quitter, en fait.
Donc, en fait, si vous aviez un conseil, c'est peut-être pas forcément de prendre une coopérative, mais d'aller trouver la coopérative qui correspond à son activité, à ce qu'on a envie de faire, à l'ambiance.
Oui, c'est ça. C'est vraiment un tout, en fait. Alors, il faut trouver... et dans une coopérative d'entrepreneurs comme Créalide, en fait, on est accompagné par des référents. On a un référent, surtout dans les premiers mois où on est sur un contrat qui s'appelle le contrat CAP, où on teste son activité, en fait. On est très accompagné par un référent qu'on garde tout au long de sa présence et effectivement avec lequel on fait des points réguliers sur son activité, sur ses réussites, ses échecs, etc. Et donc la personnalité aussi des référents compte beaucoup, en fait.
Bien sûr. Oui, c'est
leur efficacité, leur disponibilité, ça compte beaucoup. Et donc, ça doit être très, très variable selon les coopératives.
Oui, donc bien prendre le temps de faire son choix, en tout cas, voilà, et d'aller chercher aussi potentiellement le statut qui correspond, puisque vous en avez testé plusieurs.
Tout à fait.
Là, il semblerait que vous avez trouvé le bon. On va faire une petite pause musicale, puis on se retrouve juste après pour continuer à parler ensemble.
Vous écoutez Envie d'entreprendre, votre rendez-vous avec l'économie locale animé par Marie-Cécile Drécourt.
De retour dans Envie d'entreprendre avec Olivia Mailleux, rédactrice web, formatrice, spécialiste de la communication digitale. Alors, cette émission, on parle beaucoup d'un statut particulier qui, pour moi, est assez intéressant, la coopérative d'entreprise. On a un peu expliqué dans la première partie de l'émission en quoi ça consistait, les avantages, et puis pourquoi, Olivia, vous avez choisi ce statut-là. Alors, vous parlez, juste avant la pause, d'un contrat qui s'appelle le contrat CAP, qui fait partie des étapes, des différentes étapes de la vie dans cette coopérative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, en fait, quand on rentre dans les coopératives d'entrepreneurs, parce que c'est vraiment, voilà, c'est des étapes qui sont définies par la loi, en fait.
Oui, c'était très cadré, en fait.
Oui, hein. C'est très, très cadré, tout à fait. On rentre pour tester son activité. Donc, on est sous un contrat qu'on appelle le contrat CAP pendant plusieurs mois, où là, on est vraiment, on peut cumuler ce contrat avec son chômage, avec un temps de travail salarié également. Alors, pas temps plein, parce que l'idée, c'est vraiment de tester son activité pour devenir entrepreneur. Donc voilà, il y a des mesures d'accompagnement particulières et on va tester son activité pour savoir si elle peut être rentable, si on est vraiment sur la bonne voie, si c'est une activité qui va intéresser les utilisateurs, etc. Donc, on va tester pendant plusieurs mois. Et une fois qu'on a vu que l'activité était rentable, était intéressante et correspondait vraiment à ce qu'on voulait faire, on va passer en contrat CESA où là, on va devenir vraiment salarié et rentrer vraiment activement dans la coopérative. Alors, on est très actif pendant le contrat CAP où là, généralement, on est bien accompagné. Donc, on fait des formations, on assiste à des groupes d'échange, etc. Et une fois qu'on est effectivement en contrat, je crois que ça s'appelle le contrat CESA, on est là salarié. Et quelques années plus tard, je crois que c'est 2 ou 3 ans, on passe associé obligatoirement de la coopérative, tout à fait. D'accord. Et si on ne veut pas passer associé, on est obligé de quitter la coopérative, en fait. C'est vraiment une étape obligatoire.
Oui, c'est vraiment comme si on était dans une entreprise.
Et, tout à fait.
Et est-ce que ça veut dire que la coopérative peut aussi vous dire à un moment, on considère que vous avancez, enfin voilà, que c'est pas viable, et donc vous demander de sortir de la coopérative ?
Alors, ça se passe pas tout à fait comme ça. Effectivement, je pense que c'est très très rare que la coopérative dise à des coopérateurs ou à des entrepreneurs, il faut partir. Mais par contre, effectivement, la période CAP, avec le référent et avec les membres de la structure, vont effectivement guider l'entrepreneur sur son activité. Je crois que le contrat CAP peut aller jusqu'à 2 ans et demi. Bon, si au bout de 2 ans et demi, l'activité n'est pas viable, s'il n'est pas possible de se sortir un salaire, ne serait-ce qu'un salaire minimum, je pense qu'effectivement, tout le monde va s'accorder à dire que l'activité n'est pas la bonne, en tout cas dans cette forme-là.
Et justement, vous parliez salaire. Alors, quand on entend salaire, on se dit on cale un salaire au début, quand on arrive dans une entreprise, on sait combien on touche tous les mois. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Ça dépend vraiment des clients que vous allez réussir à trouver.
Oui. Alors là, le salaire est fixe quand même, puisqu'effectivement, on travaille sur des périodes de 6 mois, hein, comme en entreprise. On va faire un bilan à 6 mois et puis on va voir effectivement à quel salaire on peut prétendre pendant 6 mois. Par contre, effectivement, c'est très souple, c'est-à-dire que sur un mois, si je veux décider de me payer plus, si ma trésorerie le permet, je vais le faire. Si ma trésorerie est en berne, je peux décider effectivement de me payer moins. Donc ça, c'est très souple. Mais après, notre salaire va dépendre de nos rentrées de clients, en fait. Donc effectivement, on reste indépendant dans la prospection, la négociation. Et si on ne fait pas rentrer de clients, la coopérative ne va pas pouvoir nous payer.
C'est pas magique.
Voilà. Même, après, il faut voir avec sa trésorerie. Donc on est vraiment sur un mode de fonctionnement là, très entrepreneurial, en fait, avec une trésorerie qu'il faut faire fructifier et qui va nous assurer un fonds de roulement et un fonds de sécurité.
Oui, donc en fait, vous faites évoluer le salaire au fur et à mesure de l'activité. Et ça, voilà, c'est pas comme dans une entreprise où effectivement on a négocié avant d'arriver. Et...
Oui, là c'est très très variable. Sur effectivement 3-4 ans, je pense que j'ai dû avoir 3-4 salaires différents, en fait. Et certainement que ça va amener à évoluer en plus, évidemment.
Espérons-le, bien sûr.
Mais voilà, c'est très variable.
Et est-ce que si moi, j'ai déjà mon entreprise depuis plusieurs années, je peux arriver dans une coopérative comme ça et recommencer ces étapes-là ?
Alors, c'est généralement moins adapté à quelqu'un qui a son entreprise et qui a vraiment son entreprise qui fonctionne, parce que de toute façon, il faudra passer par la période CAP. Et donc, ça peut être frustrant pour certains indépendants de se dire, il va falloir que j'arrive dans une période où je dois tester mon activité, mais je sais qu'elle fonctionne déjà. Mais oui, j'en ai connu, évidemment, les coopératives d'entrepreneurs acceptent ces états-là, parce qu'on comprend, enfin, ils comprennent effectivement très bien qu'on veuille changer de statut juridique, mais c'est également, c'est pas seulement changer de statut juridique, c'est changer aussi de vision sur le monde du travail, en fait. C'est, voilà, mettre des choses en commun pour avancer et pour faire en sorte que les relations salariales soient un peu plus saines et un peu plus horizontales.
Oui, et puis aussi peut-être l'envie de ne plus être seul, parce que quand on est indépendant, notamment les auto-entrepreneurs, souvent ils sont tout seuls.
Oui, oui.
Ça peut aussi faire du bien d'être accompagné.
Ça, c'est très important. Il y a donc ces avantages-là, effectivement, sur Créalead, je crois qu'on est 70 ou 80 formateurs. Donc voilà, pour le coup, on n'est pas seul face à ces questions. Et puis on bénéficie d'avantages, comme par exemple le numéro Calliope. Moi, j'ai le numéro Calliope de ma...
Alors que vous n'avez pas rempli tous les dossiers.
Je n'ai pas tous les dossiers, mais la coopérative l'a fait à ma place. Et donc, du coup, j'en bénéficie. Donc, tous ces avantages-là sont intéressants.
Donc, pour expliquer, Calliope, ça permet aux entreprises de faire rentrer vos missions de formation dans leurs droits de formation.
C'est ça.
Et donc, d'être
aujourd'hui,
financé.
Effectivement, sans être référencé Calliope, c'est difficile de faire de la formation.
Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur la coopérative d'entreprise. On va basculer sur votre métier, la base, ce pourquoi vous travaillez tous les jours. Donc, vous faites de la communication digitale. On entend énormément parler des réseaux sociaux. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui crée son entreprise pour se lancer sur la communication? Souvent, c'est un peu ce qui passe au second plan quand on a son métier. Mais en fait, on en a quand même pas mal besoin. Alors, qu'on peut faire pour être efficace?
Alors, avant d'aller sur les réseaux sociaux, moi, je privilégie les réseaux.
La
vraie vie et les réseaux locaux, en fait. C'est vraiment ça qui va faire la différence et qui va permettre de ne pas être seul, de réfléchir, d'avancer sur son projet, de se faire connaître. Donc, en local, c'est très, très important. Et ensuite, effectivement, mais ça va se doubler avec une visibilité sur les réseaux sociaux. Maintenant, il n'est pas question pour un entrepreneur d'être forcément sur tous les réseaux sociaux. Donc, il va falloir vraiment réfléchir à quelle plateforme, quel outil va correspondre à ses objectifs. Si on est une entreprise et qu'on travaille avec des entreprises, on va privilégier LinkedIn, qui sera effectivement le réseau social beaucoup plus adapté que Facebook, qui va être un réseau social sur lequel on va toucher plus des consommateurs.
Oui, donc, parce qu'on entend souvent « Oh là là, on m'a dit qu'il fallait que je sois sur Facebook ou sur Instagram ».
Voilà. Déjà, il faut arrêter d'écouter les « on m'a dit que », parce que généralement, les « on m'a dit que » viennent de nos enfants, de nos cousins, de nos neveux qui ont 18 ans et qui utilisent les réseaux sociaux dans un cadre...
Donc là, maintenant, ils disent « faut aller sur TikTok ».
Voilà, c'est ça, dans un cadre tout à fait personnel et pas professionnel. Donc, il faut aller sur les réseaux en fait, qui correspondent à son activité et qui correspondent à l'endroit où sont les personnes à qui on parle, en fait, à nos cibles.
Et vous parliez des réseaux physiques dans la vraie vie. D'abord, peut-être, il faut aussi travailler son discours, être capable de savoir ce qu'on fait, cas d'être capable de le présenter.
Oui, tout à fait. Alors ça, on le travaille généralement en amont. Après, la présence dans les réseaux physiques peut permettre ça, parce que généralement, dans ces réseaux, il y a toujours des moments où on va faire un pitch.
Le fameux pitch de 30 secondes.
En 30 secondes, une minute ou trois minutes de son activité professionnelle. Et donc, du coup, il y a... À force de parler de son activité, on se rend compte effectivement de ce qu'on veut mettre en avant, de finalement cette mission-là, j'ai moins envie de travailler dessus, donc je vais peut-être un peu moins en parler. Donc ces réseaux sont là aussi pour aider effectivement à travailler son discours, mais c'est bien de le travailler effectivement avant et d'être surtout au clair sur ce qu'on veut faire.
À qui on s'adresse, quel objectif,
Tout à fait.
Qui évolue aussi au fur et à mesure de...
Tout à fait. C'est ça, généralement, le plus difficile pour les indépendants, surtout que les indépendants ont souvent plusieurs casquettes. Ils ont plusieurs missions. Et donc, du coup, voilà, être au clair sur ce qu'on propose, à qui on propose. Et donc là, après, on ira chercher les utilisateurs, les clients, les consommateurs sur les réseaux sociaux adaptés.
Et justement, ça, si on a plusieurs casquettes, ça peut être aussi de se dire, sur mon site internet, j'ai plutôt axé sur ça. Sur Instagram, j'ai plutôt axé sur autre chose. Ça peut être une bonne
Peut effectivement travailler les réseaux sociaux et les supports digitaux comme ça, selon ces plusieurs casquettes, selon toutes ces casquettes. Après, faire attention à ne pas s'éparpiller. Et généralement, on travaille pas sur 4 ou 5 missions en même temps. C'est variable tout au long de l'année, tout au long de son parcours professionnel. Il y a un moment où on va mettre plus en avant, par exemple, la formation ou la rédaction dans mon cas, etc. Donc, je vais communiquer différemment sur des plateformes différentes. Mais voilà, évitez de se faire déborder par les réseaux sociaux. Ils sont là comme support. Ils ne sont pas là comme bouffeurs de temps et bouffeurs d'énergie, en fait.
Oui, parce que c'est très chronophage.
Tout à fait. Donc, il faut rester effectivement focus sur son activité professionnelle, C'est pas effectivement en étant sur Instagram et sur Facebook qu'on va trouver. Alors on peut trouver des clients, mais c'est pas là-dessus effectivement qu'on va trouver la majorité de son chiffre d'affaires généralement. C'est un support. Faut pas oublier que ce sont des outils, des supports.
Oui, on appelle ça des outils de communication.
Voilà, tout à fait.
Et puis c'est aussi chronophage, mais il faut les animer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a lancés, si on n'est plus dessus, c'est-à-dire souvent on donne tout d'un coup,
oui.
On lâche tout parce qu'on y est. Et puis après, on oublie, sauf que là, c'est pareil.
Ça plaît pas. Il y a effectivement les fameux algorithmes qui dirigent les réseaux sociaux.
Il ne faut pas oublier que derrière ces outils, il y a des robots.
Des robots, voilà. Tout est géré par des robots qui sont de plus en plus difficiles à satisfaire. Et donc, du coup, il faut penser à la régularité. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il vaut mieux être présent sur un ou deux réseaux sociaux. Le faire bien plutôt que d'être présent partout.
Et alors justement, quand quelqu'un vient vous voir... qu'est-ce que vous faites ? Comment ça se passe ? J'ai besoin de communication sur Internet, les réseaux sociaux, un site Internet. Quel est votre premier travail ? Qu'est-ce que vous faites pour
Alors, premier travail, c'est qu'on va vraiment, travailler sur la définition de l'activité du commerçant ou du professionnel, etc. Sur ses objectifs, en fait. Vraiment, la première étape, ça va être ses objectifs. Tout le monde a l'impression que c'est facile à définir, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Parce qu'effectivement, les professionnels partent souvent sur plusieurs choses, parce qu'ils savent faire plusieurs choses.
Ils ont plein d'idées.
Ils ont plein d'idées et ils ont plein de compétences aussi. Mais voilà, c'est difficile de travailler sur plusieurs missions en même temps. Donc, on va vraiment travailler sur les objectifs, sur les cibles également, à qui je parle. Ça, c'est pas si simple que ça non plus. Puisqu'il faut effectivement travailler. On dit en communication, si on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Donc on va essayer de préciser à qui on va s'adresser. Et puis on va travailler la concurrence, on va faire tout ce travail-là d'analyse, de stratégie pour effectivement être présent le plus efficacement possible sur les plateformes digitales.
Oui, puis être conscient de ses moyens à soi, c'est-à-dire à la fois financier si c'est pour travailler avec un indépendant,
tout à fait.
Mais aussi le temps.
Tout en prenant effectivement ce qu'on est capable de faire. Puisqu'effectivement, notre cœur de métier, généralement, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Donc, il faut que les réseaux sociaux restent des outils à disposition de sa visibilité, mais qu'ils ne prennent pas toute la place et qu'ils ne deviennent pas pesants, en fait, dans l'activité de l'entrepreneur.
Il y a des possibilités de programmation. Enfin, voilà, c'est aussi de ce qu'on appelle la stratégie. C'est-à-dire qu'après, ça va permettre de créer un plan.
Tout à fait.
Qui va permettre de gagner
travailler.
Du temps.
Voilà, on va travailler sur une ligne éditoriale, sur un calendrier éditorial qui va permettre effectivement de gagner beaucoup, beaucoup de temps, d'être régulier et donc de satisfaire les algorithmes des réseaux sociaux et puis de toucher ses utilisateurs, ses cibles beaucoup plus efficacement.
Donc prendre du temps en amont pour définir ses messages, à qui on parle, ses objectifs, qui peut paraître sur le coup perdre du temps puisqu'on n'est pas dans l'action, en tout cas on n'est pas visible, pour avoir justement derrière une communication de qualité, c'est ça le conseil ?
Travailler sur sa stratégie, c'est jamais perdre du temps de toute façon. Quoi qu'il arrive, il en sortira quelque chose, que ça soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, dans sa pratique ou dans le chemin qu'on veut prendre. Se poser pour réfléchir là-dessus, ça n'est jamais de la perte de temps.
Et c'est là où, à la fois, votre métier et la coopérative d'entreprise, ça vous a permis aussi de poser ça, vu toutes les étapes que vous nous avez expliquées sur... je pense que c'est ça aussi qui vous a plu.
Ça, tout à fait. Et puis, le réseau... En fait, quand on se lance à son compte et quand on est indépendant, on va vraiment utiliser tout ce qu'on a à disposition. Donc, les réseaux locaux, les réseaux sociaux, les outils digitaux, les personnes qui peuvent nous aider, donc dans une coopérative d'entreprise.
Parfait, merci beaucoup Olivia.
Merci.
Alors on vous retrouve sur les réseaux sociaux donc sous le nom d'Olivia Mailleux.
Oui.
Et La Fille de l'encre.
Qui est mon blog,
voilà.
Voyage, tout
Votre
à
blog
fait.
Voyage, effectivement on n'en a pas parlé mais on n'a pas le temps.
Encore une autre casquette.
Voilà. Et puis merci beaucoup pour toutes ces informations
merci,
sur la coopérative d'entreprise. Je pense qu'on a compris que c'était un statut particulier qui est intéressant à regarder. Et merci à Bruno pour la technique dans cette émission.
Merci Bruno.
On se retrouve le mois prochain pour rencontrer un ou une nouvelle chef d'entreprise du territoire.